sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Mesdames et messieurs, bienvenue en Éthiopie. Si vous aviez encore un doute, oui, l'Éthiopie, c'est du concentré de vivant. L'endémisme ici, ce n'est pas une légende, c'est du concret. Ce décor un peu fou, là-haut sur les plateaux, Adrien en est tombé amoureux. Et surtout, il s'est pris de passion pour une espèce en particulier. Le loup d'Éthiopie. Ce loup-là cache un secret. Un secret bien planqué, bien gardé. Et qui n'a été mis à jour que récemment. Accrochez-vous. Le loup d'Éthiopie butine des fleurs. Oui, oui. Un carnivore, un canidé qui butine des fleurs. C'est ce comportement-là, surprenant, inédit, presque poétique, qu'on va vous raconter dans ce film.
Et nous venons d'écouter la bande-annonce du film Le secret du loup, un film donc de Baptiste De Turche qui vient de nous rejoindre par téléphone. Bonjour Baptiste.
Bonjour, merci de me recevoir.
Eh bien, merci à vous d'être à notre micro, j'allais dire presque. Je pense qu'on vous entend bien, c'est parfait. Alors Baptiste De Turche, je vous présentais rapidement en tant que réalisateur de documentaires animaliers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous ?
Oui, bon, en fait, voilà, c'est mon métier, c'est d'être cinéaste animalier. Donc moi, je suis au Savoyard, ça va faire quelques années que je fais ça. Et j'ai déjà sorti deux films, un film sur le renard polaire en Scandinavie et un film sur les galliformes de montagne, donc sur les oiseaux de montagne, qui étaient d'ailleurs passés
à Briançon.
Et puis dans, ouais, et puis dans d'autres cinémas, par exemple à Embrun, Guillestre, L'Argentière, etc., à Gap aussi. Et donc voilà, en fait, j'auto-produis et j'auto-distribue mes films. Et puis après, je les diffuse dans les cinémas ou dans les établissements scolaires.
D'accord. Et donc, vous les diffusez et vous êtes présent dans les établissements scolaires pour le présenter aussi et en discuter avec eux ?
Ouais, c'est ça. En fait, là, pour le film dont on va parler, je fais des tournées d'avant-première. Donc, en fait, pour chaque avant-première, je suis présent. Ou alors, mon co-réalisateur sera présent aussi pour les avant-premières dans les Pyrénées. Et sinon, ouais, quand je fais des interventions scolaires, je viens présenter un de mes films pour parler un peu d'environnement, de sauvage et de nature.
Alors avant de parler de votre dernier film, donc Le secret du loup d'Éthiopie, j'aimerais revenir sur votre parcours. Comment vous en êtes arrivé à faire des documentaires animaliers ?
Alors comment je suis arrivé là, pour faire un peu court. En fait, j'ai d'abord fait des études de biologie et écologie à l'Université de Savoie. Et après, j'ai fait une formation dans le cinéma animalier dans le Poitou-Charentes. Il y a une école qui propose ça, qui s'appelle l'IFCAM. Et après, j'ai eu la chance de travailler avec des réalisateurs de cinéma de montagne comme Anne-Éric Lapier. Et donc, voilà. Et en fait, ce qui a été un peu le déclic, c'est quand j'étais à la fac, donc à l'université, j'étais un peu perdu dans ce que je voulais faire et c'est un jour en passant du temps chez ma mère, je déprimais un peu sur le canap et je suis tombé sur un documentaire qui m'a ouvert les yeux un peu sur ce que pouvait amener le cinéma animalier dans la recherche ou dans la mise en avant d'espèces, d'environnement, etc. Je me suis dit que c'est complètement dingue ce qu'on peut faire avec le cinéma, avec la vidéo en général. Et c'est de là que j'ai cherché une formation dans le cinéma animalier.
Ah oui, et d'accord. Voilà. Et ensuite, ça vous est apparu évident une fois que vous étiez dedans.
Ouais, plus ou moins. En fait, c'est la façon que j'ai trouvé de participer un peu à la sensibilisation et à la préservation du vivant. Et donc voilà. En fait, moi, mon rêve quand j'étais petit, c'était d'être payé à observer les animaux. Sauf que j'avais pas trouvé vraiment de métier qui faisait ça. Ça se fait plus trop maintenant. Donc voilà, j'ai un peu créé mon métier tout seul, quoi.
Oui, mais aujourd'hui, ça a plutôt le vent en poupe, ce genre de films, de documentaires animaliers. Il y en a plusieurs qui sont sortis au cinéma ces dernières années. On a l'impression que c'était le bon créneau, en tout cas, pour rentrer là-dedans.
Je ne sais pas si c'était le bon créneau, mais oui. Du coup, ça tombe bien, qu'il y ait un peu un regain pour le cinéma animalier. Disons qu'il y a eu une période où ça a été l'âge d'or du cinéma animalier, où par exemple des grandes chaînes de télévision payaient très cher pour faire plein de films animaliers. Puis après, ça s'est un peu effondré, ça est redevenu un peu, comment dire, quelque chose de plus, de moins connu, de moins réalisé, de moins produit. Et là, oui, c'est vrai que depuis quelques années, on voit de plus en plus de films sur des thématiques nature qui reviennent et au cinéma et à la télé et même sur les plateformes de vidéos à la demande, quoi. Donc c'est cool.
Parce que vous, en tout cas, vous faites plutôt des films à destination du cinéma.
Ouais, en fait, disons que voilà, je trouve qu'il y a quand même un peu une histoire derrière le cinéma, il y a un peu une ambiance, il y a un peu un tout en fait avec le cinéma, le fait de prévoir sa soirée, d'aller s'installer dans une grande salle, avoir un grand écran, avoir du son partout autour de nous, etc. C'est quelque chose de très immersif et je trouve que c'est assez en rapport en fait avec ce que c'est que la nature, le sauvage, l'animalier, etc. Quand on va dehors, c'est hyper immersif et donc si on peut revivre un tout petit peu ça quand on est dans une salle de cinéma, c'est cool. Et puis c'est aussi l'échange qu'il y a derrière qui m'intéresse beaucoup aussi. C'est parler du travail, parler des espèces que je montre, parler de tout ça avec le public.
Alors parlons-en justement du travail. Vous avez donc réalisé 3 films, vous le disiez. Comment choisissez-vous vos sujets de films, donc les animaux que vous allez suivre?
Il y a plusieurs façons de choisir en fait les sujets des différents films. Soit c'est au gré des rencontres, comme par exemple le film sur le secret du loup d'Éthiopie. Mm-hmm. Ça c'est vraiment une rencontre qui a fait que je me suis mis à travailler sur cette espèce-là. Mon précédent film, Le Paris sur les galliformes de montagne, là c'est plus une volonté très personnelle parce que je suis attaché à ces animaux-là. Et donc, j'avais envie de parler de ces animaux-là parce qu'on n'en parle jamais et pourtant on les côtoie tout le temps quand on est en montagne. Et mon premier film sur le renard polaire, en fait, c'était plus en lisant un article et en voyant une photo. Il y a une photo qui avait un peu marqué le monde de la photo animalière à cette période-là où on voyait un renard roux avec un renard polaire dans la gueule. Et j'avais trouvé cette photo incroyable et je me suis dit, ok, ça se passe dans le Yukon, mais est-ce que nous, dans notre grand nord à nous, ce comportement-là existe? Et donc, c'est de là que j'avais eu envie de faire le film sur le renard polaire en Scandinavie.
Et alors,
il y a plein de sources d'inspiration partout, tout le temps. Et donc, voilà.
Le plus dur, c'est peut-être de choisir, alors.
Carrément. C'est de choisir, et puis il y a aussi après, c'est un peu triste à dire, mais bon. C'est mon métier à plein temps, donc il faut aussi que les films marchent. Donc il y a aussi, il faut faire un choix sur les sujets pour être sûr que tel ou tel sujet intéresse, marche, fasse venir du monde dans les salles, etc. Et des fois, même si on a un super sujet, on va peut-être le laisser un peu de côté pour le moment, au profit d'un autre sujet, peut-être entre guillemets un petit peu plus bankable, qui marcherait un petit peu mieux, qui amènerait un peu plus de monde dans les salles. Parce que voilà, il y a aussi cette réalité économique derrière le cinéma indépendant et l'autoproduction, quoi.
Oui, bien sûr. Et alors, vous disiez que Le Secret du Loup d'Éthiopie, c'était une histoire de rencontre.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre?
Ouais, bien sûr. En fait, il y a quelques années, j'ai rencontré Adrien Le Saffre, du coup, qui est le co-réalisateur du film Le Secret du Loup d'Éthiopie. Et c'est surtout un photographe animalier spécialiste du loup d'Éthiopie. Ça fait presque 10 ans qu'il travaille sur cette espèce-là, qu'il va plusieurs fois par an, etc., pour faire des images. Et on s'était rencontrés sur une expo photo en Alsace. Et chacun exposait son travail. Et puis on s'est rencontrés comme ça, grâce à cet événement-là. Et on a très vite sympathisé. Et les choses ont fait qu'on a voulu travailler ensemble sur un projet. Alors à la base, c'était pas spécialement forcément faire un film ensemble, mais c'était travailler sur un truc, quoi. Et voilà, les choses ont fait que ça nous a amené à faire un film sur le loup d'Éthiopie.
D'accord. Et donc dans ce film, vous le suivez en tant que photographe.
Oui et non. En fait, on essaie de suggérer un peu la place, enfin la présence d'Adrien. Qui apparaît dans le film, mais il intervient entre guillemets à aucun moment. Il va jamais prendre la parole ou quoi que ce soit. Il permet de lier en fait un petit peu l'histoire, Mais on tenait quand même à mettre en évidence l'importance de la photo animalière dans le milieu de la préservation de l'environnement. Parce que la photo animalière, c'est pas juste faire des belles images, c'est aussi faire des images pour essayer de comprendre le vivant. Et Adrien participe à ça avec ses différentes interventions et ses différents travaux auprès de l'organisation qui s'occupe de la préservation du loup d'Éthiopie. Et donc voilà, on trouvait ça bien de mettre ça à l'image. Et après, le sujet par contre principal du film, ça reste le loup d'Éthiopie et surtout un comportement incroyable que cet animal a.
Oui, on en parlait rapidement en introduction et on l'entendait dans la bande-annonce. Est-ce que vous pouvez nous le décrire rapidement, ce loup d'Éthiopie? Peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu l'affiche.
Ouais, alors un loup d'Éthiopie, à quoi ça ressemble? Déjà, c'est un loup. Il n'y a pas débat. La génétique a parlé. C'est un loup. Ce n'est ni un chacal ni un renard. Alors pourquoi je dis un renard ou un chacal? Parce qu'en fait, c'est un loup qui est très différent en fait du loup gris qu'on a nous en Europe. C'est un animal qui est plutôt haut sur pattes, mais qui est plutôt petit de taille, qui est très svelte, très athlétique, très gracieux, et surtout qui a une robe rousse. Il a vraiment la même robe que notre renard roux, avec un plastron blanc. Avec vraiment ce pelage roux. Il a aussi un comportement de chasseur assez atypique. Chez nous, le renard gris, il va plutôt chasser en meute, alors que le loup d'Éthiopie, lui, il va plutôt chasser tout seul, parce qu'en fait, sa proie favorite, qui représente à peu près 90% de son régime alimentaire, ce sont des rats. Et donc, il n'y a pas besoin d'être plusieurs pour chasser des rats. Et donc voilà, c'est une espèce qui est endémique, c'est-à-dire qu'on la retrouve qu'à un seul endroit dans le monde, sur les hauts plateaux éthiopiens. Il en reste que 500. C'est une espèce qui est menacée, qui est rare, et qui vit à 3500 mètres d'altitude. Voilà.
Et alors, comment vous avez préparé justement ce voyage et cette rencontre avec le loup d'Éthiopie? C'était pas à côté cette fois, contrairement aux Alpes pour votre dernier film.
Non, bah carrément, ça a été un peu du stress parce que voilà, c'est un pays qui est un peu quand même loin, faut prendre l'avion, il y a plein de démarches administratives à faire parce qu'il faut faire dès qu'on fait du film animalier ou du film professionnel plutôt, on est soumis à plein d'obligations avec des autorisations de tournage à payer qui coûtent très cher, des autorisations d'aller sur les hauts plateaux, des papiers pour amener du matériel, etc., etc. Donc ça, c'était un peu compliqué, mais on a la chance que, bah justement, Adrien, comme je disais, ça fait 7 ans qu'il travaille sur cette espèce-là. Il y va plusieurs fois par an. Donc, il a toute une équipe, en fait, sur place. Il a les contacts, ce qui nous a grandement facilité le travail. Et en fait, on a pu bénéficier de son expertise, Adrien, mais aussi de l'expertise de Muséienne, qui est notre guide local. Et donc en fait, une fois qu'on était arrivé en Éthiopie, c'était relativement facile parce que tout était géré de manière royale par Adrien et Muséyenne, quoi. Le plus compliqué, c'était d'arriver en Éthiopie et de faire les demandes d'autorisation, quoi.
Oui, d'accord. Et ensuite, quand vous arrivez pour faire un film documentaire, vous savez déjà un peu la trame, l'angle par lequel vous voulez transmettre les images, les messages, les informations, ou c'est le terrain qui ensuite vous fait penser ça?
Ah non, c'est hyper risqué de partir sans avoir rien écrit. Alors, moi j'écris, encore une fois, vu que c'est de l'autoproduction, j'écris pas non plus un dossier de prod de 30 ou 50 pages. Moi, ça tient sur à peu près 6 pages, et en gros, c'est pour avoir vraiment la trame. Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va montrer, etc. Savoir, quand on part, on sait déjà quel type d'image on va devoir réaliser. Et c'est pour ne pas arriver justement sur le terrain et pas savoir quoi faire. Et qu'une fois qu'on est rentré, il nous manque des images, ou alors on se dit, ah, en fait, ça aurait été bien de faire cette image-là parce que ça aurait trop bien été dans le montage, etc. Donc, il faut partir déjà avec une certaine idée des images que l'on veut.
Vous êtes
Après, bien sûr, ça reste du cinéma animalier, donc on est aussi soumis aux aléas du terrain. Et clairement, là, pour le tournage, on a dû réécrire 2 fois le scénario pendant le tournage. Parce qu'en fait, rien ne s'est passé comme prévu, quoi.
D'accord. Et vous étiez déjà allé là-bas pour voir avant, pour faire du repérage? Vous avez découvert le lieu lors du tournage?
Alors, Alors moi, c'était la première fois que j'allais en Éthiopie. C'était même la première fois que j'allais aussi au sud de ma vie. Mais du coup, voilà, Adrien, lui, il connaissait parfaitement le secteur. Et donc, le repérage, ça fait 7 ans qu'il le fait. Donc, voilà, c'était pas trop compliqué. Mais moi, à chaque fois, de chaque chose était une découverte, quoi.
Et comment vous avez travaillé alors avec Adrien, justement?
Alors, comment on a travaillé ensemble? Bah lui, il a vraiment amené l'aspect expertise, logistique, connaissance de l'animal, connaissance de l'Éthiopie, etc. Et moi, j'ai plutôt amené le côté réalisation et tournage, bah voilà, Adrien, je lui disais, bah voilà, ce serait bien qu'on ait ces images-là et qu'on fasse ça. Et lui, il me disait, ok, bah du coup, on va aller là et on va faire comme ça. Et donc, c'était hyper complémentaire, donc c'était vraiment trop cool. Et voilà. Et après, bah, il y a aussi eu la partie post-production où Adrien, bah, je l'ai guidé sur l'écriture de la voix off, mais c'est lui qui a écrit la voix off. La musique, on l'a fait faire par quelqu'un. Moi, j'ai fait le montage, l'étalonnage. Je m'occupe de pas mal d'aspects de la distribution du film aussi. Adrien s'occupe de la distribution dans les Pyrénées, et parce qu'il est ariégeois.
Ah oui.
Et donc voilà, on se répartit un peu le travail comme ça.
Chacun sur son massif, alors enfin sa chaîne de montagne.
Alors oui et non, étant donné que Adrien lui fait toute la partie, on va dire sud-ouest, et moi je fais le
Sud-ouest.
reste de la France.
Ouais. Oui, d'accord. Et vous êtes resté combien de temps sur place en tout pour le
On est
tournage?
resté 17 jours.
17 jours. Ah oui,
On est
c'est
resté
court quand
17
même.
jours. C'est très court. C'est très court parce que c'est très limité par le budget. Voilà, on a réussi à avoir assez de budget grâce à un financement participatif, mais en gros, on a fait avec ce qu'on a pu, quoi.
Comme le pari, c'était très court. Vous vous spécialisez dans le film réalisé sur un temps court?
Alors oui et non. là pour le, ouais, alors pour le film sur le secret du loup d'Éthiopie. C'est ce que j'appelle un peu des tournages one shot, où en fait, comme ce que j'avais fait pour le renard polaire, c'est que c'est j'y vais, enfin on y va, on fait le tournage et puis on doit en faire un film. Le pari, j'ai quand même pris plus de temps parce que le tournage, il avait quand même duré 7 mois. Et là, pour le prochain film, c'est pareil. Là, ça fait déjà 1 an et demi qu'on est en train de faire le tournage du prochain film et on le sortira que fin 2027. Donc,
Un temps bien plus
voilà,
long.
ouais, le prochain film, bah, vu le sujet, ça prend plus de temps, donc c'est plus compliqué. Mais voilà.
D'accord, on va en parler alors peut-être à la fin de l'émission. Je vous propose une pause musicale et on revient ensuite pour parler justement plus en détail de ce tournage et des conditions dans lesquelles vous l'avez réalisé.
Ça marche.
En un atardecer, solo aparecen dos cosas. La luna y el sol.
Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar. Y esperar. Luna, agua, tierra, sol. Solos estamos tú y yo. Luna, agua, tierra, sol. Te miro, me miras, sale amor.
Luna, agua, tierra y sol. Busco maneras. Verte, amor. Myself now, hoping for an ocean.
Nous sommes dans le magazine du Midi avec Baptiste De Turges, co-réalisateur du film Le secret du loup d'Éthiopie. Alors, j'aimerais maintenant, Baptiste, parler donc de ce moment de tournage sur place. Vous avez une approche que vous résumez en trois phrases. Donc, voir sans être vu, observer sans perturber, filmer sans déranger. Donc, vous avez une forme d'éthique dans votre façon de tourner ?
Alors oui, on met vraiment un point d'honneur à respecter l'animal, à surtout ne pas le déranger et vraiment faire en sorte que, bah voilà, c'est un peu comme quand on va en montagne, on laisse pas de traces, quoi. Après, des fois, c'est un peu plus compliqué que d'autres, mais on met tout en œuvre pour faire en sorte que on dérange pas l'animal. C'est vraiment quelque chose d'hyper important pour nous. On va pas utiliser de technique pour attirer les animaux, on va pas les appâter, on va pas produire un son, on va pas utiliser d'animaux. On dit imprégnés, donc ça veut dire semi-domestiqués. Pour faire des images, etc. C'est vraiment 100% bio, si je peux dire. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose pour lequel on a vraiment beaucoup d'importance. On met beaucoup d'importance. Et surtout, si à un moment on arrive et qu'on voit qu'on dérange l'animal, qu'on le stresse ou quoi, et ben c'est à nous de partir. Parce qu'en fait, faut bien prendre conscience que les animaux, c'est pas des acteurs. Et que limite, si on fait des images de ces animaux-là, au moment présent, les animaux, pardon pour le terme, mais ils s'en foutent un peu, quoi. Au contraire, eux, ils préfèrent être tranquilles. Et donc, il faut juste respecter ça. Donc, on met vraiment un point d'honneur là-dessus.
Donc, ça veut dire que vous êtes en affût, à un endroit, sans bouger, camouflé ?
Alors, pour le tournage du loup d'Éthiopie, ça peut paraître un peu contre-intuitif. Mais en fait, la plupart des images ont été faites depuis un véhicule. Alors, je m'explique. On a l'impression que c'est un peu antinomique avec ce que je viens de dire. Voilà. Et en fait, c'est pas du tout un safari. C'est juste que on a essayé de faire des images de loups d'Éthiopie hors du véhicule, et à chaque fois, ça a fait fuir l'animal. Parce qu'en fait, les loups d'Éthiopie n'aiment pas du tout les humains. Ils en ont peur. Ça les stresse. Et donc, voilà, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Le meilleur moyen pour vraiment faire des images de loup d'Éthiopie sans le déranger, sans le stresser, c'est vraiment depuis un véhicule, parce qu'en fait, il comprend pas que dans le véhicule, il y a des humains. Il connaît pas forcément cette forme, il comprend pas trop ce qu'il y a dedans, mais voilà. En plus, c'est très facile à voir, parce que comme les chiens, vu que c'est aussi des descendants des loups, ils ont ce qu'on appelle des signaux d'apaisement. Donc ça veut dire que dès qu'ils sont stressés, ils vont bâiller, ils vont se lécher les babines, ils vont avoir les oreilles qui tournent dans tous les sens, etc. Et en fait, quand on était dans le véhicule à faire les images, bah on les dérangeait pas du tout. Même des fois, pour les louveteaux, ils étaient hyper curieux, et du coup, ils venaient renifler les pneus du véhicule. Et voilà, c'était vraiment le meilleur moyen pour faire des images.
Ah oui, effectivement, surtout c'est surprenant. Oui, ouais, oui, oui. Donc effectivement, ça paraît surprenant. Et vous arriviez à filmer malgré cette contrainte de la voiture ?
Alors, on a eu hyper mal au dos, du coup, parce qu'on était tout contorsionné pour faire les images. Mais encore une fois, c'est le bien-être animal avant nous. C'est nous qui décidons d'y aller, c'est nous qui décidons de faire des images. Donc, s'il y a quelque chose à subir, c'est à nous de le subir et pas l'animal. Et donc, oui, on a fait en sorte de faire les images comme on pouvait et comme on devait. Et c'était pas forcément très facile parce que quand on est trois dans un véhicule, donc Adrien, moi et Muséienne, quand on filme avec des téléobjectifs, le moindre mouvement, il se ressent tout de suite à la caméra. Donc c'était limite ça le plus compliqué, en fait, quand on devait faire les images. C'était de pas du tout bouger pendant qu'on filmait. Et ça, c'était assez compliqué. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé.
Et Adrien prenait des photos en parallèle ou du coup, il était aussi concentré sur le film
Alors, on s'était mis d'accord sur quelque chose. C'est tant que je lui disais pas qu'il pouvait faire des photos, il faisait pas de photos. Parce qu'encore une fois, il est photographe, mais là, on était vraiment dans le cadre d'un tournage de film. Et c'est hyper important d'avoir beaucoup de matière pour faire un film, et surtout qu'en plus on n'avait pas le même degré de grossissement avec nos objectifs, ce qui fait qu'on pouvait filmer la même scène et faire des raccords, par exemple pas qu'on ait le même plan toujours avec le même point de vue, et changer un petit peu les points de vue de grossissement, etc., et du coup donner un petit peu de dynamisme dans le montage. Donc c'était hyper important qu'on filme les mêmes choses en même temps. Et voilà. Et après, quand je sentais que, on avait assez de choses qu'il nous fallait, je disais qu'il pouvait faire des photos.
Oui, donc vous aviez deux caméras, alors, et vous filmiez en même temps, alors. Et alors,
exact.
Vous disiez que le terrain vous a quand même amené à revoir le scénario, entre guillemets, plusieurs fois. Pourquoi ça s'est passé, comment, sur place pendant ces 17 jours, vous disiez, je crois.
Ouais, c'est ça. Alors. C'est vrai, j'en ai pas parlé avant, mais en fait, ce que nous, on est allé filmer, c'est un comportement qui est complètement dingue chez le loup d'Éthiopie. C'est que malgré le fait que ce soit un grand prédateur, que ce soit un carnivore, etc., eh ben, ce loup-là, il butine des fleurs. C'est complètement dingue. C'est quelque chose qui est pas du tout connu. C'est la première fois que des images comme ça sont montrées au cinéma. Et donc, nous, on était partis pour filmer ce comportement. Sauf que, on s'est retrouvé à une période de l'année où normalement il est censé pleuvoir à peu près une fois par jour ou une fois tous les deux jours. Et là, on s'est retrouvé à arriver à un moment où ça faisait presque deux semaines qu'il n'avait pas plu. Et en fait, au final, ça faisait presque un mois qu'il n'avait pas plu à la fin du tournage. Et donc, les fleurs avaient pris énormément de retard. Et on a eu beaucoup de mal à filmer le comportement du loup dans les fleurs. Et en fait, tout ça a amené à devoir repenser le tournage, repenser le scénario, repenser le film, etc. Parce qu'on n'avait pas du tout le nombre d'images qu'on était censé avoir. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on a réécrit deux fois le scénario pendant le tournage.
Et finalement, vous avez pu l'observer et le filmer
Ça, il faut venir voir au cinéma
pour
le savoir.
Oui, d'accord. on n'en saura pas plus alors aujourd'hui. mais effectivement, oui, c'est donc un comportement qui est surprenant et que vous mettez en avant justement dans la présentation du film. Mais bon, je n'insiste pas, on découvrira ça en voyant le film. Très bien, j'allais reposer des questions sur cela. Mais autant aller voir le film et s'en faire une idée, et plutôt avec vous voir les coulisses donc, de ce tournage. Est-ce qu'il y a eu un moment où peut-être deux moments forts vraiment dans ce terrain
Des moments forts. Alors, oui, il y en a eu plusieurs. Moi, quand je suis allé là-bas, j'avais... Alors, je parle en ma personne et puis après, plus pour l'équipe. Mais en ma personne, j'avais, en plus de vouloir voir le comportement et de réussir à faire le film, il y avait deux choses que je voulais voir en Éthiopie ou vivre. C'était le ciel étoilé. Ça paraît très bête, mais on a l'impression qu'ils ont tellement plus d'étoiles que nous là-bas, et le ciel, il est juste incroyable. Et du coup, j'avais vraiment envie de voir ça, et c'était vraiment fou, c'était incroyable. Et l'autre chose que je voulais vivre aussi, c'était le chant des hyènes. En fait, il y a des hyènes, et le soir, elles peuvent rôder autour des camps, etc. Et elles ont un cri très particulier, et on a eu la chance d'avoir des hyènes qui sont venues vraiment tout près du camp, pendant la nuit et qui ont, entre guillemets, chanté. Et c'était juste magistral, quoi. Et c'était vraiment incroyable. Mmh. Et après, par rapport à l'équipe, le moment fort, c'est, du coup, je vais spoiler un peu, mais c'est quand on a réussi enfin à filmer le comportement après 10 jours à essayer de le filmer sans y arriver, quoi. Mmh. Et du coup, ça, c'était un moment très fort. Mmh.
Ça spoil pas trop puisque vous en parlez quand même dans la présentation du film, donc on se doute quand même qu'il y a un moment ou un autre.
techniquement, si on a sorti le film, c'est que c'est qu'on a réussi à montrer le rose secret, quoi.
Sinon, il aurait peut-être fallu y retourner une deuxième fois. Ça aurait été compliqué, oui, de ce que vous disiez tout à l'heure. D'accord. Donc oui, des moments forts en fait de nature, alors de découverte de la nature. Vous connaissiez ce territoire avant de vous intéresser donc au loup d'Éthiopie et peut-être votre rencontre puisque si vous parlez des hyènes et tout ça, c'est que vous aviez déjà en tête ça pour aller le voir, l'écouter, alors, prêter l'oreille.
Ouais, alors forcément quand on commence à faire un projet, on s'intéresse un peu à là où on va pour pas paraître, enfin pour pas arriver la fleur au fusil et se dire ok, on découvrira tout sur le terrain. Encore une fois, comme je disais, avant de partir, on écrit un petit peu le scénario et moi j'avais écrit un peu ça justement. J'avais demandé à Adrien, il m'avait un peu expliqué comment c'était les hauts plateaux et j'avais regardé des films aussi sur les hauts plateaux d'Éthiopie. J'avais regardé pas mal de photos. Adrien il a sorti 2 livres qui parlent de ces hauts plateaux, donc j'étais déjà un peu entre guillemets imprégné, mais sans l'avoir vraiment vécu. Et donc, je m'étais un peu renseigné sur ce qu'on pouvait y trouver et j'ai vu qu'il y avait des hyènes et Adrien m'en avait parlé. Et du coup, je suis allé revoir 2-3 trucs aussi sur Internet par rapport à ça. Et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert ce champ des hyènes, toute cette beauté de la nature qu'on peut retrouver là-haut, quoi. Donc, je m'étais quand même un peu préparé à ce que je pouvais voir. Mais entre ce qu'on s'imagine et la réalité, il y a toujours une grande différence. Donc, il y a aussi eu de très très belles surprises.
Donc ça, c'est un film qui commence à sortir, enfin qui est en avant-première en tout cas, un peu partout en France alors déjà.
Oui, alors en fait là, on est en tournée d'avant-première avec Adrien depuis le 18 octobre dernier. Et le film, il va continuer sa tournée d'avant-première jusqu'au début du mois d'avril parce que le film sort en national le 1er avril 2026. Alors oui, c'est très long, mais encore une fois, vu que le film il est autoproduit et autodistribué, on n'a pas la puissance de communication d'une société de distribution, d'une société de production. Donc, on est un peu obligé de se déplacer un peu partout pour faire connaître le film et du coup amener déjà les premiers spectateurs à voir le film et à en parler. Parce que nos meilleurs ambassadeurs, c'est les premiers spectateurs. La tournée, elle a débuté il y a à peu près 2 mois. Ça va faire 2 mois que le film tourne et il est encore pour quelques dates. Et donc les projections dans le Briançonnais font partie de cette avant-première là. Et il n'y a pas que dans le Briançonnais. Il y a aussi, je vais peut-être pouvoir dire les dates.
Oui, on peut les donner maintenant. Je pensais à la fin de l'émission, mais donnons-les maintenant. La fin de l'émission arrive également.
Ça marche. Alors, le 12 décembre à 20h au Rioubel à Guillestre, le 13 à 20h30 au cinéma L'Eau Vive de l'Argentière, le 14 à 18h30 au cinéma Eden Studio à Briançon, et le 16 à 20h au cinéma Le Roc à Embrun. Et ça, c'est pour la tournée aux Alpines. Et après, j'aurai d'autres dates fin janvier dans le PACA, avec des dates dans le 06, le 04 et le 13 pour le moment. Et je suis en train de caler d'autres dates pour fin janvier dans la région PACA.
D'accord. On peut retrouver toutes ces dates dans les cinémas, mais est-ce qu'elles sont réunies à un endroit, sur un site,
j'essaie de les mettre au fur et à mesure sur mon site internet, donc baptisedeturge.com, dans l'onglet date. Ou alors, vous pouvez aussi les retrouver sur le site Allociné, qui est un site de critique cinéma, etc., où on voit les programmations des films. Et du coup, si vous allez sur la fiche du Secret du Loup d'Éthiopie, vous trouvez les dates autour de chez vous et où partout en France.
Je viens d'entendre que vous dites des turches. Je me suis trompée, j'ai dit deux turches, alors c'est des turches.
Non, mais c'est, ouais, c'est juste... Enfin, c'est pas grave, on peut dire les deux.
C'est un détail, mais remettons la bonne prononciation. D'accord, donc ça, c'est les dates. Et quand est-ce que le film, après, sera en diffusion, en cinéma, en salle classique?
Le 1er avril 2026.
1er avril 2026. Donc, ce n'est pas encore perdu si on a raté la date de son avant-première à côté de chez soi. Donc, pour vous suivre, vous contacter, vous venez de donner votre site, c'est parfait. J'aurais quand même une question sur votre présence. Vous disiez que vous aimiez bien être présent pour parler du film, rencontrer les personnes, que ce soit pendant les avant-premières, mais aussi auprès des scolaires, à d'autres moments dans l'année. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, dans cette transmission?
Bah, c'est amener un peu d'intérêt pour le sauvage. Parler de ma passion, montrer que tout n'est pas perdu, montrer qu'il y a encore de l'espoir et que si on arrive à se mobiliser un petit peu, on peut faire de grandes choses. On peut encore se retrouver un peu tous ensemble, les amoureux de la nature ou les personnes qui ne connaissent pas forcément, amener un peu d'intérêt pour des espèces aussi. Et puis juste partager, passer un bon moment entre amoureux de la nature, répondre à des questions. Parce que forcément, quand on regarde un film, il y a toujours un peu des questionnements sur comment ça se passe là-bas, etc. Et puis voilà, c'est toujours cool aussi pour nous réalisateurs d'avoir le retour des spectateurs, savoir comment le film est perçu, savoir aussi qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a déplu. Ça, c'est super important pour pouvoir progresser pour les prochains films. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Alors, c'est une charge de travail énorme. Mais c'est toujours des très bons moments passés en fait dans les cinémas. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, le cinéma, c'est quand même une atmosphère très particulière, c'est une ambiance. Et je trouve que c'est cool d'avoir encore ces moments où on peut tous se retrouver, discuter, le vrai réseau social en direct, quoi. Et donc je trouve ça top et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire.
Malgré la fatigue, ça a peut-être des déplacements, en tout cas vous ne vous en lassez pas. Alors c'est pas toujours les mêmes questions, ça vous lasse pas ça?
Si, alors du coup c'est bien parce que j'ai toujours la réponse, mais j'ai très très souvent les mêmes questions et donc voilà, mais après j'ai aussi des fois des questions très très originales. Souvent c'est les enfants qui posent les questions les plus originales et c'est assez ouf parce que des fois on se dit mais comment t'as eu cette idée, quoi. et c'est trop bien parce que ça nous met un peu à notre place aussi, parce que on se rend compte que les plus grands émerveillés, c'est quand même les enfants, et donc ils se posent plein de questions. Mais en même temps, ils se posent pas la question de « Ok, si je pose la question, qu'est-ce qui va se passer ?» Ils sont directs, ils sont cash, et c'est trop bien. Et on devrait un peu tous être comme ça, à vraiment être curieux comme ils le sont encore, et garder un peu vraiment cette part d'enfant pour s'émerveiller, pour s'intéresser, etc. Et c'est fou.
et donc, dans ces moments-là où vous partagez avec le public, vous disiez quand même qu'il y avait cette volonté au début de notre échange de communiquer, de sensibiliser à la nature aussi. Donc, vous n'êtes pas neutre, finalement, dans vos films. Vous avez un parti pris à la base.
On peut dire que j'ai un parti pris. Le parti pris, c'est le parti pris de la connaissance, quoi. Après, c'est amener de l'information, amener de l'intérêt, amener de la connaissance pour que les gens aient de l'affection, en fait, pour ne serait-ce que pour le loup d'Éthiopie ou des choses comme ça. En fait, moi, mon but, c'est d'amener un peu de sauvage dans la vie des gens. Et si ça doit passer par un film sur le loup d'Éthiopie ou un film sur les galiformes de montagne ou n'importe quoi, en fait, moi, mon but, c'est d'ouvrir une porte d'entrée vers le monde du sauvage pour les gens et qui s'y intéressent. Parce qu'en fait, c'est que en s'intéressant aux choses qu'on apprend à les aimer, et il y a que les choses qu'on aime qu'on a envie de protéger. Et donc si je peux amener un tout petit peu d'entrain vers ces choses-là, c'est gagné, quoi. Donc si le parti pris, c'est de juste faire en sorte d'avoir une planète un peu plus vivable et plus respectueuse des autres vivants, Ouais, il y a carrément du parti pris.
Eh bien, merci Baptiste Détuche. Nous arrivons à la fin de cette émission. Donc, on le rappelle, vous êtes en tournée à partir donc, de cette fin de semaine dans le Briançonnais, mais vous avez d'autres dates. Vous disiez fin janvier dans la région PACA. Je me trompe
c'est
pas,
ça.
C'est bien ça. Et ouais, on peut ça. Vous suivre sur votre site, qu'on retrouve grâce à votre nom, Baptiste Détuche. Et donc, vous êtes en tournée en avant-première du film Le secret du loup d'Éthiopie. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation.
Eh ben, merci à vous, et puis à ce week-end dans les salles.
Oui, exactement. Merci et bonne journée à vous, Baptiste Détuche, et puis également auditeurs et auditrices. À bientôt sur Fréquence Mistral.